France Inter. Karine Descartes. Le 7-9.
France Inter, il est 7h, vendredi 18 décembre. Bonjour à tous, bienvenue sur France Inter. Laurence Thomas, bonjour.
Bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, le chef de l'État, malade du Covid-19, est parti s'isoler à Versailles dans la résidence présidentielle. Il pourrait avoir été contaminé il y a une semaine à Bruxelles. Les autres titres, Laurence.
La Suède a échoué le témoignage choc du roi Carl Gustave contre la stratégie atypique du royaume pour gérer la crise sanitaire. Les États-Unis en passe de devenir le premier pays occidental à disposer de 2 vaccins contre le Covid-19. Un comité d'experts a donné son feu vert à Moderna. Attentat déjoué du Thalys en 2015, le tireur condamné à la perpétuité. Et puis à la fin de ce journal, les Sœurs Sourire de Saint-Jean en Saône-et-Loire. Elles se lancent dans le crowdfunding pour financer des lits médicalisés pour la fin de vie des religieuses dans leur communauté.
Vos invités et vos rendez-vous d'Inter ce matin à 7h45, le débat éco du vendredi avec Thomas Piketty et Dominique Seux. Ce matin, premier bilan pour 2020. Et puis à 8h20, le grand entretien de la matinale avec l'épidémiologiste et membre du conseil scientifique, le professeur Arnaud Fontanet. Il est responsable de l'étude Comcor sur les lieux de contamination au Covid-19. Où les Français s'infectent-ils? De l'Institut Pasteur. Posez-lui vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000.
France Inter.
De la fièvre, de la toux et une grande fatigue. Emmanuel Macron a quitté l'Élysée hier soir pour s'isoler à la Lanterne à Versailles. Positif au Covid-19, le chef de l'État a annulé tous ses déplacements, mais il va continuer à travailler de la résidence présidentielle. Les circonstances dans lesquelles le président français a été exposé au coronavirus n'ont pas encore été déterminées, mais selon le ministre de la Santé, Olivier Véran, Emmanuel Macron pourrait avoir attrapé le virus il y a une semaine à Bruxelles, où s'étaient réunis les 27 chefs d'État ou de gouvernement européen. Olivier Véran, le ministre de la Santé.
Le chef de l'État, en l'occurrence, n'a pas été manifestement contaminé au cours d'un déjeuner ou d'un dîner à l'Élysée, mais vraisemblablement, d'après ce qu'on entend, en tout cas possiblement lors d'un conseil européen il y a quelques jours, 4 ou 5 jours à Bruxelles, avec des chefs d'État, un dîner de travail, je crois, qui avait été organisé dans une grande pièce espacée. Malheureusement, on n'est pas à l'abri d'une contamination. Mais ce qui veut bien dire, lorsque nous disons de faire très attention, surtout dans les moments où l'on mange, où l'on boit, vous ne pouvez pas lui reprocher d'aller rencontrer, croiser des chefs d'État européens, surtout au moment de parler à la fois de la relance pour la France et de l'organisation de la campagne vaccinale dans notre pays, sur le continent européen.
Olivier Véran, le ministre de la Santé, alors à l'isolement pendant 7 jours, Emmanuel Macron va continuer à travailler sous la surveillance d'un médecin-chef militaire, mais avec un staff réduit près de lui. Une contamination que les proches du président de la République n'ont pas tardé, Simon Le Baron, à transformer en message politique.
Fallait-il un virus pour faire redescendre Jupiter parmi les hommes? Il est un Français comme les autres, nous dit en tout cas l'Élysée. Un Français respectueux des règles, mais qui reste, comme nous tous, à la merci de cette imprévisible épidémie. D'où la nécessité de redoubler de vigilance à une semaine de Noël. C'est ce que retient aussi le patron des députés marcheurs, très proche du président, Christophe Castaner.
Je crois qu'il faut le prendre justement comme un enseignement. Même si vous avez un comportement le plus exemplaire possible, le risque est là. Donc diminuer au maximum les situations où vous pouvez être en risque. Mais personne, même le président de la République, ne sont épargnés de cela. Et nous devons du coup en appeler à la vigilance supplémentaire des uns et des autres, et en particulier à l'approche des fêtes.
Nous sommes tous dans le même bateau. Voilà ce que dit en creux cette contamination présidentielle, selon les proches d'Emmanuel Macron. Ce qui ne l'empêche pas de travailler, c'est l'autre message de l'Élysée. Ces rendez-vous sont maintenus, mais en visio. On l'a vu hier soir, col roulé noir et masque FFP2 sur le nez, participer, comme prévu ou presque, à une conférence humanitaire organisée par le Quai d'Orsay. Un Français malade donc, mais un président toujours aux manettes.
Simon Le Baron, le Covid-19 n'est décidément pas une grippette, comme certains l'ont dit au début de la pandémie. Le chef de l'État sans doute en témoignera. Selon une étude du Lancet Respiratory Medicine, le virus fait 3 fois plus de morts à l'hôpital que la grippe saisonnière classique. L'enquête s'est basée sur les données de plus de 135 000 patients français. Mais paradoxalement, il y a eu moins d'enfants et d'adolescents hospitalisés pour le Covid que pour la grippe.
L'épidémie fait aussi vaciller les gouvernements, comme en Suède.
Le pays n'a jamais fermer ses bars, ses restaurants ou ses magasins, juste des recommandations sans caractère coercitif. Une deuxième vague galopante dans le royaume et cet aveu hier du roi Carl Gustave face à la stratégie atypique de l'immunité collective. Nous avons échoué.
Je crois que nous avons échoué. Beaucoup de gens sont morts et c'est terrible. C'est quelque chose qui nous fait tous souffrir. C'est terrible, tous ces morts. Et la tristesse des familles, la frustration de tous les entrepreneurs qui sont à genoux et qui vont perdre leur travail. C'est une année horrible qui nous a frappés.
Le roi Carl Gustave de Suède, il est une stratégie dont beaucoup espèrent, c'est la vaccination. Les premières injections contre le Covid-19 en France auront lieu dès la dernière semaine de décembre dans les EHPAD et les lieux de résidence long séjour pour les personnes âgées. Or, cette vaccination chez les plus anciens soulève beaucoup de questions. Les résidents se demandent s'ils doivent ou non franchir le pas. C'est toute la question du consentement et comment prendre une décision sans un niveau d'information suffisant. Certaines personnes âgées comme Bernadette, qu'Hélène Chevalier a rencontré, ont déjà tranché.
Bernadette, élégante résidente de
85 ans et demi,
profite d'un rayon de soleil à l'extérieur. Elle s'est assise face au grand portail qui clôt son EHPAD.
J'ai pas franchi la grille là depuis.
Je vois que vous êtes
depuis le mois de mars.
Vous êtes installée en face de la grille de sortie.
Et on peut pas. On peut pas.
L'octogénaire rêve de faire le marché ou se promener avec ses deux filles, retrouver en somme un peu de liberté.
Oh oui, là j'en peux plus. Il y a des moments là. Je me rends compte que je suis dans ma chambre, pourtant je faisais beaucoup de choses. Mais là, depuis quelques jours, je sens que je n'arrive même pas. Ah non, je me mets dans mon fauteuil, ça m'est jamais arrivé, et puis je reste l'après-midi, je ne sais plus. Non, là vraiment, j'ai hâte de partir.
Alors à la question, allez-vous vous faire vacciner ? Bernadette ne tergiverse pas.
Ah oui, 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 moi, au contraire, je dis tout de suite, moi je veux bien essayer. Non, non. Les filles, elles sont plus réticentes, elles pour elles, mais elle me dit, maman, tu fais ce que tu veux, puis c'est tout. Hein. Oui, c'est voilà, que je sois tranquille le plus vite possible.
Ça vous fait pas peur ?
Non, pas du tout. Pour pouvoir ressortir le plus vite possible, moi, c'est tout ce que je demande. J'ai des petites filles, vous savez, ça fait un an que je les ai pas vues depuis le Noël dernier. C'est pour ça, ça me fait long. Hein.
En attendant de se faire vacciner, Bernadette va enfin franchir le grand portail pour quelques heures et un repas de Noël en famille.
Un reportage d'Hélène Chevalier. Les États-Unis, eux, sont en passe d'autoriser un deuxième vaccin contre le Covid-19, presque une semaine après avoir accordé leur autorisation à celui de Pfizer-BioNTech. Un comité d'experts a voté hier la recommandation et l'autorisation d'urgence du remède de la société Moderna. Sébastien Paour.
20 voix pour et une abstention. Les experts ont échangé hier par visioconférence pendant plus de 8 heures, interrogé les scientifiques de Moderna et ils donnent donc leur aval à l'utilisation de son vaccin. Si l'agence américaine des médicaments confirme, peut-être dès aujourd'hui, ce sera une première pour le laboratoire installé dans le Massachusetts. C'est dirigé par le français Stéphane Bancel. Le feu vert est intervenu en 24 heures pour celui de Pfizer. Washington a commandé 200 millions de doses à Moderna. Près de 6 millions pourraient être expédiés dès ce week-end partout aux États-Unis, car la différence majeure entre les deux vaccins, c'est que celui de Moderna peut être conservé dans un congélateur classique, alors que celui de Pfizer doit l'être à moins 70 degrés. Les doses de Moderna pourraient donc être envoyées dans les zones les plus reculées du pays, où un simple congélateur suffira à les stocker. De quoi faire face à une pandémie toujours aussi galopante aux États-Unis. Plus de 3600 morts hier encore, 1 million de nouveaux cas en plus tous les 5 jours. New York, Sébastien Paour, France Inter.
C'est le soulagement au Nigeria. Les 300 jeunes lycéens capturés le week-end dernier dans leur pensionnat de Kankara par les djihadistes de Boko Haram ont été libérés hier soir au nord-ouest du pays. On en reparle dans le journal de 8h.
L'actualité judiciaire, Laurence. Le tireur du Thalys condamné à la perpétuité.
Un attentat aveugle, évité de justesse par un concours de circonstances et par le courage exceptionnel des passagers. La cour d'assises spéciale de Paris a condamné à la réclusion à la perpétuité Ayoub El Kazani. Compte rendu d'audience, Corinne Audouin.
Ayoub El-Razani a attaqué le Thalys sur l'ordre d'Abdelhamid Abaoud, le futur coordonnateur des attentats du 13 novembre. Abaoud est mort dans l'assaut de l'immeuble de Saint-Denis, mais un autre membre de cette cellule, le Belge Mohamed Bakali, condamné pour complicité dans l'attaque du Thalys, sera également sur le banc des accusés lors du procès des attentats du 13 novembre. La cour d'assises spéciale a donc jugé l'attentat du Thalys comme le premier d'une longue série, explique Thibaut de Montbrial, l'avocat des soldats américains.
On sent bien que les juges se sont vraiment attachés dans le détail à expliquer en quoi cette cellule de terroristes envoyée depuis la Syrie pour semer la mort sur le territoire français s'inscrivait dans le temps long. Mohamed Bakali est précisément l'une des personnes qui fait le lien au sein de la cellule Abaoud entre l'attentat du Talis et l'attentat du 13 novembre. Bakali est le symbole de cette cellule Abaoud qui est entrée à plusieurs dizaines en Europe à l'été 2015 par la voie des migrants pour semer la mort et la désolation en Europe pendant toute l'année 2015-2016.
Condamné à 25 ans de réclusion criminelle, Mohamed Bakali nie avoir joué le moindre rôle dans l'attentat du Talis comme dans ceux du 13 novembre. Il a déjà annoncé qu'il ferait appel de sa condamnation.
Corinne Audouin, des bonnes sœurs en roue libre sur Internet. La congrégation des religieuses apostoliques de Saint-Jean à Semur-en-Brionnais en Saône-et-Loire ont décidé de s'appuyer sur YouTube et le financement participatif pour financer des lits médicalisés, permettre ainsi aux religieuses les plus âgées de vivre leurs derniers jours dans leur communauté. Pour cela, elles ont produit un clip très bien réalisé et largement diffusé sur les réseaux sociaux. Thibault Lefebvre.
L'air du Casa de Choc pour une comédie musicale élaborée avec des chorégraphies inspirées du film Sister Act sur des paroles dignes de Sœur Sourire.
Et si nous s'appelions à l'aide pour faire des chambres médicalisées.
Parmi les actrices, sœur Blandine, 25 ans de couvent.
Je suis la sœur bien en chair qui pousse le fauteuil roulant.
Une sœur bien en chair donc, qui aime, dans le clip comme dans la vie, casser les codes.
Les sœurs, c'est quand même des gens qui ont pu être aigris, pas très jolis, un peu cucu. Je pense qu'on a un petit peu dépassé cette vision et qu'à l'heure actuelle, c'est pas des jeunes filles moches qui rentrent au couvent. En tout cas, on récupère pas toutes les moches de la terre.
Le rire de sœur Colombe, qui, comme les 30 religieuses de la communauté, a chanté et dansé pour solliciter les internautes.
Danser pour de l'argent, c'est pas très catholique, non, peut-être pas.
Et là encore, c'est un cliché qui tombe. Chez les sœurs, on prend aussi le temps de s'amuser.
On aime faire la fête ensemble quand même, on aime fêter. L'ambiance n'est pas non plus discothèque, hein, mais on pousse la chansonnette. Donc c'est plutôt fête de famille, vous voyez, mais avec beaucoup de convivialité.
Convivialité
quoi.
Et entraide, puisque le clip n'a coûté que 2000 euros pour 3 jours de travail avec 4 professionnels. Il a pour le moment rapporté 50 000 euros, la moitié de la somme demandée.
Accordée au diapason des anges, une sœur chantant avec ses sœurs.
Un clip qui vaut le détour et la collecte, ça ne s'invente pas, se fait via un site qui s'appelle Credo Funding, le crowdfunding spécialisé dans le financement de projets chrétiens.
Merci Laurence Thomas, je vous dis à tout à l'heure.